Bonjour Marc Lévy.
Bonjour.
Vous avez reconnu le générique des chiffres et des lettres. Alors avant les lettres, les chiffres, vous êtes l'écrivain français le plus lu au monde. 50 millions d'exemplaires vendus sur la planète, dont moins de la moitié en France. 23 millions, excusez du peu, traduits en 49 langues. Et aujourd'hui, vous venez pour votre 21e roman, déjà tiré à 350 000 exemplaires. On annonce un tome 2 et même un tome 3. J'ai fini avec les chiffres, maintenant les lettres. C'est arrivé la nuit et contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre, ce n'est pas une comédie romantique, mais un roman d'espionnage, de cybersécurité, sur fond de scandales financiers et même médicaux. C'est presque du polar journalistique. Par quoi on commence pour raconter un peu ?
Je ne sais pas du tout. Vous m'avez pris de court. Oui, c'est un thriller, c'est un roman d'aventure, c'est un roman d'espionnage moderne.
Commence chez les hackers.
Ce sont neuf personnages, neuf hommes et femmes qui ne se connaissent pas, mais qui travaillent ensemble depuis des années.
Ouais.
Ils font des grands hacks ensemble. Ils appartiennent à la communauté, à une communauté de hackers, mais qui sont des hackers de très haut niveau. Vous savez qu'il y a trois...
Vous savez comment je l'ai su ? En vous lisant.
Merci.
Il y a les white hat et les black hat, les chapeaux blancs, les chapeaux noirs. Déjà, dites-nous la différence chez ces hackers.
Il y a les hackers
méchants et les gentils.
Non, c'est plus subtil que ça. Il y a les hackers qui... Enfin, les hackers dits criminels, c'est-à-dire les hackers qui hackent à des fins pour détourner de l'argent, pour voler des bases de données et les revendre, que ce soit des bases de données de carte de crédit ou d'identité. Vous avez les white hats qui sont souvent des black hats reconvertis qui travaillent pour des agences de sécurité, ce qui ne veut pas dire que ce sont des gens gentils, parce que tout dépend du côté éthique de la personne.
Ça veut dire que ce sont des pirates qui sont devenus corsaires.
Si vous voulez.
À la manière des grands bateaux à voile. Et voilà. Là, ce sont des grey hats, les vôtres.
Alors, pour le coup, ce sont des vrais Robin des Bois des temps modernes. Ce sont des hackers qui travaillent à hacker et qui sont des lanceurs d'alerte et qui se battent contre la grande criminalité en col blanc. Et cette grande criminalité en col blanc est extrêmement puissante et très dévastatrice.
Vous les avez rencontrés ?
Oui.
Comment vous avez travaillé ?
J'ai travaillé, en fait, parce que le roman est né d'une enquête que je menais. Le roman est né d'une passion pour l'actualité. En lisant un certain nombre d'articles et de faits de grande criminalité, comme, vous voyez, un petit inspecteur dans son bureau qui commence à se demander si une série de crimes n'aurait pas un lien entre eux, je me suis posé la même question. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien entre tous ces crimes ? J'ai commencé à relier les points, je suis parti sur le terrain pour mener une enquête. J'ai enquêté. En enquêtant, vous rencontrez des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, qui s'intéressent aux mêmes choses que vous, parfois qui se posent les mêmes questions que vous, de contact en contact. Et puis, grâce à la générosité et au partage, j'ai fini par rencontrer les neuf.
On pourrait parler presque de la théorie du complot. Vous parlez du scandale de l'insuline. Au moment du Covid, certains dénoncent le Big Pharma, c'est-à-dire une entente supposée des plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux. D'autres pensent qu'il s'agit là de complotisme. Mais vous êtes très clair, Marc Lévy, vous dites « Les grands laboratoires se sont entendus pour faire monter le prix de l'insuline et ce que vous écrivez fait froid dans le dos. La commercialisation des médicaments de la classe thérapeutique insuline, indispensable à la survie des patients diabétiques, a vu son prix augmenter de 1000% au cours des 15 dernières années. Comble du cynisme, la découverte de l'insuline, je l'ai appris grâce à vous, remonte à presque 100 ans et les auteurs en avaient cédé les droits pour 1 dollar symbolique afin que tous les malades bénéficient du traitement. Pourtant, le flacon se vend désormais 300 dollars aux États-Unis. Il en faut 3 ou 4 par mois. Question simple, pourquoi n'existe-t-il pas d'insuline générique ?
Parce que les labos s'arrangent pour modifier les produits régulièrement afin de renouveler les brevets et de faire en sorte que les brevets ne tombent jamais dans le domaine public. Mais il y a un formidable documentaire qui est paru sur Arte, ce qui pour moi est un scandale pharmaceutique énorme, qui est le scandale de Gilead et de la manipulation des prix d'un produit qui est absolument indispensable pour tous les gens qui sont atteints d'une dégénérescence maculaire et donc pour lutter contre le fait d'être aveugle. Aujourd'hui, le traitement, l'injection dans un œil coûte 1000 euros et il y a un autre médicament qui est tout aussi efficace qui coûte 50 euros et les laboratoires se sont arrangés pour que le produit à 50 euros ne voit jamais le jour.
Ouais.
C'est un coût énorme pour la Sécu, c'est un enrichissement de centaines de millions.
Mais là, alors attendez, je veux revenir à votre livre, 1000% d'augmentation en 15 ans. En fait, ce sont tous les Français, dites-vous, qui payent pour les diabétiques via la Sécu.
Non, ça, moi, je ne parle pas de. Dans le roman. Ouais. Mais là, c'est vous qui. Mais c'est vrai. Ouais. Mais je ne parle pas de ça.
Moi, vous en parlez dans une interview. Il y a plus grave aux États-Unis. Comme il n'y a pas de sécurité sociale à proprement parler, ça fait des morts. Combien de morts par an aux États-Unis?
À peu près 10 000. De personnes qui n'ont pas les moyens de se payer leur dose d'insuline. Et en fait, quand j'ai mené mon enquête, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui n'avaient tellement pas les moyens de se payer leur insuline qu'ils la coupaient. Et évidemment, en coupant l'insuline au tiers ou à la moitié, la dose d'insuline qu'ils reçoivent est insuffisante et il y a des comas et il y a des morts. Donc c'est à peu près 10 000 morts par an.
Tout ça est dans le livre et bien d'autres choses encore. On continue à en parler jusqu'à 11h. C'est Arrivé la nuit de Marc Lévy. Hélène Manarino arrive et comme on dit, pour reprendre votre terme, vous n'y couperez pas.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Marc Lévy avec nous qui publie chez Robert Laffont Versilio. Tiens, j'ai pas dit l'éditeur. C'est Arrivé la nuit, c'est votre 21e roman. Je ne sais pas si la notoriété d'Hélène Manarino a déjà traversé l'Atlantique. Je vous la présente.
Non, quand même.
C'est son portrait inattendu. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel. Bonjour à tous. Bonjour Marc Lévy.
Bonjour Hélène.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Ou plutôt, toutes ces choses que vous n'avez jamais dites. Tiens, écrivons ce matin ensemble cet autre roman. Cher Isidore Canopée, cela pourrait être votre autre signature.
C'est quoi ? Pourquoi ça vous fait rire ?
Surnom que l'on vous a donné pour votre côté maniaque.
Ouais, c'est vrai ? Je ne l'ai plus du tout d'ailleurs.
Non, vous ne l'avez plus. Et pourquoi ?
Pourquoi Isidore Canopée ?
C'est ma sœur qui m'appelait comme ça. Elle trouvait que je débarrassais la table trop vite, que je nettoyais trop la cuisine. Que...
C'est pas vrai.
Oui, oui.
Ah, mais non, vous voulez pas venir chez moi.
J'étais un peu maniaque de la propreté dans la cuisine à une époque, et donc elle se foutait de moi, elle m'appelait Isidore Canope.
Puis vous pourriez ensuite penser à votre playlist, puisque pour chaque écriture de roman, vous avez une playlist différente. Il peut y avoir des artistes surtout féminines, comme Sia, Barbara, Alanis Morissette. Alors pour travailler dans de bonnes conditions, il vous faut avant tout un bon petit déjeuner, pain frais, que vous allez chercher tous les matins avec votre trottinette électrique, la bonne baguette française, même à New York, là où vous vivez. Ne pas oublier le miel. Un pot en 2-3 jours quand même. Hein,
ça ne veut rien dire, ça dépend de la taille du pot.
Oui, un gros pot.
Merci.
Ah, un gros pot.
Merci pour votre soutien.
Non. Elle l'a dit, un gros pot. Elle l'a dit, un gros pot.
Solidarité masculine, très
Hélène
bien.
Hélène dit toujours la vérité.
Eh oui, vous êtes plutôt un écrivain facile. Votre meilleure inspiration, vos enfants qui viennent souvent vous voir dans votre bureau. Le bruit de la maison ne vous dérange pas. Le bruit de New York, en revanche, vous agace. Vous êtes capable de bosser 17h, 18h par jour. Concentration maximale. Alors, Marc Lévy, commençons ces choses que vous n'avez jamais dites. Pas de si c'était vrai. Tout ce qui va suivre l'est. Vous retrouverez quelques titres de vos romans. Et ça commence par Une fille comme elle.
Je suis une femme amoureuse et je brûle d'envie.
Elle, c'est Mireille Mathieu.
Vous étiez, ils ont une histoire.
Vous étiez amoureux d'elle, petit.
Non !
Et oui, ouais. Et vous l'avez même croisée à l'âge de 5 ans dans l'ascenseur lorsque vous accompagnez votre maman chez le coiffeur. Elle vous a serré la main. Vous ne l'avez pas lavée pendant quelque temps. Mais dans vos idoles, enfin, idéal féminin, il y avait aussi Audrey Hepburn. Mais personne n'était à la hauteur de votre grand-mère, la reine sévère. Votre modèle. Elle vivait avec vous, elle vous appelait Marquito et elle vous chantait souvent ça.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux.
Elle représentait une autre idée du bonheur. Dans ce bonheur, enfant, il y avait aussi vos constructions de maquettes, vos morceaux de piano improvisés, votre anniversaire où Michel Piccoli, ami de la famille, s'est déguisé en majordome. Et puis surtout, votre rencontre avec Romain Gary, il vous a fait aimer la lecture. Vous ne faisiez jamais vraiment de bêtises. Au contraire, vous demandiez à votre sœur de ne pas en faire pour ne pas contrarier les parents. La sagesse de Marc Lévy. Alors, dans ce roman, il y aurait également plusieurs lieux. Tout d'abord, la maison à Villefranche-sur-Mer, avec votre bande de copains pendant votre enfance. Et ce jour où Johnny Hallyday est venu dans la maison, il venait voir Jean-Marie Perrier, ami de la famille. Vous aviez eu la consigne de ne pas lui parler, ne pas l'embêter. Consigne stricte à tel point que lorsqu'il vous a dit bonjour avec ce « salut les mômes », vous n'avez pas
salut
osé...
les mômes.
Voilà, pardon, vous n'avez pas osé répondre. Vous ne lui avez rien dit. Seul votre chien, Plume, de l'époque, l'a salué.
Vrai ? Voilà l'anecdote.
Waouh !
Non, c'est vrai. Notre mère nous avait tellement dit, vous n'embêtez pas le jeune. Quand il est arrivé, il a dit bonjour à tous les enfants. Et aucun enfant n'a osé lui répondre. Et donc il a dû dire, ils sont vraiment mal élevés, ces gosses.
Et ça vous a laissé sans voix ce souvenir de Johnny. Hélène.
Autre lieu important, l'université de Berkeley aux États-Unis. Vous êtes partie là-bas à 18 ans pour étudier. C'était dans votre cursus. Sauf que dès le deuxième soir, vous avez rencontré une femme un peu plus âgée. Vous avez passé votre vie avec elle et vous n'êtes jamais allé en cours. Vous avez bidouillé un document pour faire croire à vos parents que vous aviez validé le cursus quand même. Vous avez profité, surtout les États-Unis. Tiens, cela prendrait plusieurs pages
c'est
de ce nouveau livre.
Non, je n'ai pas bidouillé le document. Non, je travaillais...
Non, mais c'est vrai que vous êtes parti avec une femme plus âgée, je ne connaissais pas ça de vous.
Bah non, mais bon, j'avais 18 ans.
Il y a des petits secrets.
J'en avais 28, ce n'était pas non plus, vous voyez.
Ouais.
Et puis voilà. Mais, non, mais je travaillais, j'étais quand même à la fac tous les soirs. C'était une fac d'informatique, j'y étais tous les soirs. Mais quand mes parents, quand je suis rentré, mon père m'a demandé si j'avais mon diplôme. Je restais très discret, puisque non, je n'avais pas fait le nombre d'heures de cours. Et un jour, il a simplement reçu l'attestation d'inscription. Je n'ai pas bidouillé le document. Ils ont reçu l'attestation d'inscription. Et mon père m'a dit, tiens, ton diplôme est arrivé ce matin. Et je n'ai pas démenti l'information.
C'est ça. Bon, en tout cas, voilà. Votre goût. Alors, les États-Unis, oui, parce que vous vivez à New York. C'est là-bas qu'est née votre collection de machines à écrire. Votre goût pour les nouvelles technologies. Vous êtes capable de vous lever à 3h du matin, le jour de la sortie du dernier smartphone. Vous adorez les jeux vidéo. Vous avez même été abonné au magazine Canard PC. Et oui.
Ça existe ?
Alors, je vais faire un petit peu de pub pour la presse. C'est un journal absolument génial. Avec des gens, avec une équipe absolument géniale. C'est un journal plein d'humour et je suis un...
Canard PC, on a de l'humour quand on s'appelle comme ça.
Mais c'est vraiment génial. C'est-à-dire que, mais faut le lire, ne serait-ce que pour l'humour. C'est tellement bien.
Alors, Marc Lévy, dans ce roman, vous feriez aussi de l'aviation, votre passion transmise grâce à votre papa. Et vous rêvez d'ailleurs souvent de lui. Alors, aviateur Marc Lévy, qui rêve aussi d'une maison en Toscane pour faire du vin. Rien n'est trop tard. Marc Lévy, les choses sont dites à présent. On vous laisse continuer à nous les écrire. Vous êtes aussi, pour beaucoup, une autre idée du bonheur.
Oh, mais merci mille fois. Ça me touche beaucoup. Quelle enquête
Et je n'ai pas tout dit. Il en reste des choses pour venir.
J'ai deux, trois idées sur vos sources, d'ailleurs.
Qu'est-ce que vous n'avez pas dit, Hélène ?
Ah ben, je le dirai plus tard, Marc Lévy va revenir.
Évidemment.
Et un grand merci, en tout cas, pour tout ce temps que vous m'avez consacré.
Avec plaisir. Vous aussi, vous allez revenir, Hélène, très très vite. Marc Lévy reste avec nous dans quelques instants pour parler musique avec Angèle Châtelier. On va parler d'un album de reprise soul. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de Marc Lévy pour son roman qui vient de sortir, ça s'appelle C'est arrivé la nuit, c'est chez Robert Laffont, Versilio. C'est une grande enquête auprès des hackers, auprès des Big Pharma, également auprès de Facebook, on va en parler tout à l'heure. Comment vous avez travaillé ? 3 ans d'enquête, vous l'avez dit. Et en musique, comment avez-vous travaillé ?
Pour chaque clip, j'ai une playlist.
Ah oui ?
Ouais. En fait, la musique, l'écriture, il y a une chose qui est assez magique quand on écrit, c'est le principe du grand bleu. En fait, vous êtes à la surface, vous êtes dans le monde, dans le monde des vivants, et puis vous plongez dans, et puis vous descendez dans le grand bleu, et là vous arrivez dans un autre monde qui est un monde imaginaire.
Ouais.
Et c'est, vous parliez tout à l'heure des bruits de la maison, et en fait, pendant que vous vous prenez dans le grand bleu, tout est possible, toutes les histoires se développent.
Et là, c'est quoi la playlist de cet album ?
Pour moi,
ce livre, pardon.
Alors, comme pour dans le grand bleu, la musique, c'est comme une gueuse, c'est-à-dire que c'est ce qui va vous permettre d'aller très très vite dans le grand bleu et de vous mettre à écrire. J'imagine la phrase segmentée, quand elle est reprise sur les réseaux, ça ne veut rien dire ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave, j'assume.
La gueule, c'est la chose à laquelle on s'accroche et qui nous tire vers le fond.
Voilà, c'est ça. C'est ce... qui vous emmène très très vite.
Mais venons-en à la musique, parce que sinon...
Donc pour chaque émotion qu'on recherche, que je recherche dans un chapitre, je fais des recherches musicales, et il y a des musiques qui vous entraînent immédiatement dans une émotion, que ça soit une émotion, que ça soit une accélération du rythme, que ça soit une émotion blues, que ça soit une émotion joyeuse.
Voilà. Mais là, en l'occurrence, alors
Je sais pas, la playlist de ce roman, là, je viens de regarder sur... elle fait 105 chansons,
d'accord.
7 heures et 17 minutes.
Et heureusement qu'on a un peu préparé, il n'y aurait pas ceci, par exemple.
Oui.
Qu'est-ce que c'est, ça, Marc Lévy ?
C'est London, c'est Benjamin Clémentine, c'est magnifique.
Now I see, sits in the back of the grey caravan.
Et il y a aussi...
Et ça, cette voix, cette tessiture, cette musique, c'est un de mes personnages de roman. C'est vraiment lui, c'est-à-dire que quand j'écoute ça, je suis avec mon personnage.
C'est lequel ? C'est Mathéo ?
C'est voilà. Matteo. Et c'est vraiment Matteo. C'est-à-dire que la façon dont il chante, cette nonchalance, cette voix, cette gravité, c'est magnifique. Ça. C'est dommage que vous en ayez passé que deux secondes. C'est beaucoup plus que
Marc. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, si on passe plus de musique, on ne laisse pas la parole à Marc Lévy. Donc vous pouvez choisir. Hein. Ouais, vous rentrez chez vous, on passe l'album en entier.
On lui donne Benjamin Clément. Voilà.
Et aussi Jane Haddad.
Oui, oh là là.
Quel titre ?
Moi, mon préféré, mais je crois que vous ne l'avez pas dans votre base de données.
Mais spoilez pas tout, parce que je voulais avoir l'avis d'Angèle Châtelier là-dessus.
Ouais,
c'est votre titre préféré. C'est pour ça on s'est dit ça pendant la pause.
Ouais. Oui, c'est une des artistes les plus. Enfin,
c'est extraordinaire.
Les meilleurs de ces 10 dernières années.
Falling Hearts. Ouais. C'est extra, cette chanson-là. Elle est.
Et elle, c'était qui ? Dans le roman ?
C'est Ekaterina.
Qui arrive dès le début du roman. Angèle Châtelier. La transition est toute trouvée, vous avez vu ça ?
Ouais, nickel. Hein ?
On va parler de musique, c'est pas facile de reprendre des grands de la musique comme les Beatles ou comme Nina Simone, sauf si on est des rockers de renom, et ça peut-être être plus simple.
Et oui, plus simple pour Matthew Bellamy et Miles Kane, notamment l'un est le chanteur de Muse, l'autre des Last Shadow Puppets, deux énormes groupes de rock, et ils ont eu envie de se faire plaisir. Alors avec d'autres potes, comme Graham Coxon de Blur, Nike Sester de Jet, tout ce beau monde a sorti un album sous le nom de The Jaded Hearts Club. C'est des reprises de titres de soul qui sont réputés ou méconnus de Nina Simone à Parrot Strong. Le groupe s'appelle Dr. Pepper's Jaded Earth Club's Band, en hommage au 8e album des Beatles, le Sgt. Pepper, parce que l'histoire de ce groupe supersonique y est intimement liée. Jamie Davis, guitariste britannique qui habite à Los Angeles, eh ben, il voulait se faire plaisir pour son anniversaire, c'est-à-dire louer un groupe de reprises des Beatles.
Ça existe, je vais faire ça moi aussi pour mon
anniversaire. Moi aussi, je vais faire ça pour mon prochain anniversaire. Enfin, en réalité, il s'est vite rendu compte que ça coûtait trop cher par rapport à la qualité scénique et musicale des groupes qu'il a trouvés. Alors il s'est dit, mais tiens, j'ai quand même plein de potes musiciens en fait, ça devrait les faire rire de faire ça. Banco, depuis le groupe en concert a fait un concert à un défilé, ils ont été rejoints par Paul McCartney en personne sur scène, et depuis le projet est allé plus loin. Ouais. Le super groupe est devenu The Jaded Earth Club, et dans leur album, ils s'attaquent à Choking Blue, à Chris Clark en reprenant son tube notamment Love's Gone Bad.
Attendez, au final, Starnak, il n'y a pas de reprise des Beatles.
Non, il n'y a pas de reprise des Beatles.
C'est parti comme ça, voilà. Ils ont tout perdu en route.
C'est ça, mais alors cet album est un bijou rock et pur, un groupe qu'on aurait adoré voir sur scène. Imaginez voir Miles Kane et ses comparses, des musiciens de génie, reprendre Marvin Gaye en festival.
On est loin du smoothie style de Marvin Gaye là.
Assez, oui.
Ouais. Ouais. Ça vous plaît, ça vous touche, ce genre de musique que vous aimez ?
Oui, bon, bien sûr.
Vous allez voir diamant, hein ?
Je suis un fou de musique. Non, mais je sais, mais j'adore. Non, vraiment.
Tout, le rock. On pourra aller voir sur scène ou pas ?
Et surtout, par exemple, je suis un dingue d'Aerosmith.
Ouais.
Donc,
ouais. Là, on pensait un peu à Steven Tyler.
J'allais vous dire, là, on est encore. Vous voyez, il y a une grande marge avant d'arriver à Aerosmith.
On est d'accord.
On ne pourra pas non les voir sur scène, malheureusement. Pour l'instant, ils n'ont rien prévu parce que c'est difficile de prévoir des choses, mais on peut quand même les écouter. C'est ce que je vous propose.
Ouais,
faisons ça. Voici Reach Out, I'll Be There, version rock. C'est The Jaded Earth Club, tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de l'écrivain français le plus lu dans le monde, c'est évidemment Marc Lévy, déjà 50 millions d'albums vendus, vous allez comprendre le lapsus, de livres vendus, et ça va continuer. C'est Arrivé la nuit, c'est votre nouveau roman. Et justement, on va parler d'albums avec vous, Clément Le Saff, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et ça tombe très bien parce que Marc Lévy était fan de musique, on a parlé de musique avec Angèle Le Châtelier, vous êtes également fan de BD, et Clément, vous avez 3 BD devant vous, vous revenez de vacances et vous êtes bien occupé. Il y a des BD et des post-it pour repérer les pages.
Exactement, oui, parce que j'ai terminé en fait un marathon des films de l'univers cinématographique Marvel. Alors on rappelle ce que c'est, un projet pharaonique de 23 longs métrages, c'est même pas terminé, il y en aura d'autres. Lancé en 2007 et réunissant au fur et à mesure plusieurs dizaines de super-héros comme Iron Man, Thor, Black Widow.
Attends, et vous avez fait ça tout l'été.
Et voilà,
donc tous les deux jours.
C'est ça, j'ai commencé cet été. Donc tous les films sont disponibles sur la plateforme Disney+. Ouais. J'avais commencé donc il y a maintenant 3-4 mois et je viens seulement de terminer avec le diptyque. C'est pendant les vacances que je viens de passer, Infinity War et Endgame, les deux derniers films Avengers. Et de les revoir, eh bien, ça m'a donné envie de lire les comics qui ont inspiré la trame de ces films. Voilà donc, hop, je l'ai devant moi, la trilogie de l'infini. Et je n'ai pas été déçu parce que c'est une lecture beaucoup plus originale que ce que je pensais.
Alors là, il va falloir résumer, racontez-nous, c'est l'histoire des films.
Alors au début, oui, il y a 3 tomes, Le Gant de l'Infini, La Guerre de l'Infini et La Croisade de l'Infini, écrit entre 1991 et 1993 par Jim Starlin et dessiné par Ron Lim. Les films ont puisé en fait uniquement dans le premier tome. Celui-ci là, hop, là, donc là, Le Gant de l'Infini, je ne me mélange pas. Ouais. Et donc celui-là, ça a servi à dessiner le fil rouge en fait de l'histoire des films, soit un affrontement dantesque entre les Avengers et Thanos, le titan fou, un demi-dieu surpuissant qui veut tuer la moitié de la population de la galaxie, rien que ça, dans un but écologique.
Titan était comme bien des planètes. Tellement de bouches à nourrir et si peu de ressources. Quand nous avons frôlé l'extinction, j'ai offert une solution.
Un génocide.
Mais aléatoire. Impartial et équitable entre les pauvres et les riches. On m'a traité de malade mental. Et ce que j'avais prédit s'est finalement produit.
Félicitations, vous êtes un prophète.
Je suis un survivant.
Qui veut la mort de trillions d'êtres ?
Alors, tout ça a donc donné des films spectaculaires, mais assez simples, classiques au niveau scénaristique. Il y a des gentils et un grand méchant. Les comics, eux, sont beaucoup plus riches et surtout beaucoup plus fous.
Mais si on n'a pas vu les films, évidemment, on comprend quand même.
Alors d'habitude, vous savez, je vous recommande plutôt des comics faciles d'accès. Ceux-ci, je vais être honnête, sont un peu plus complexes. C'est pas nécessaire d'avoir vu les films, car en fait, il y a tellement de différences que les films apportent pas grand-chose sur le plan scénaristique. En revanche, mieux vaut avoir quand même quelques connaissances sur les super-héros Marvel. Si vous savez pas qui est Captain America, vous allez être un peu perdu.
Parce que oui,
là, les prérequis sont totalement oubliés. On part du principe que les héros sont connus. Mais voilà, tout ça permet de s'y retrouver. D'autant que les scénaristes, ils ont intégré, en plus des héros qu'on connaît quand même, Captain America, Iron Man, Hulk, tout ça, c'est quand même du folklore. Ouais. Ils ont pris une pelletée d'autres personnages obscurs, des personnages oubliés, des vieux comics américains. À commencer par le personnage principal de la saga, le héros de la trilogie de l'Infini. C'est pas Iron Man, c'est pas Captain America, c'est Adam Warlock, un être artificiel que moi je ne connaissais pas du tout avant de lire les comics. Il prend en fait l'apparence d'un homme à la peau jaune, aux cheveux blonds et aux yeux blancs, drapé dans une grande cape rouge. Un type pas très loquace, avec des pouvoirs assez flous. Et avec lui, la trilogie de l'Infini dérive vers un mysticisme que le cinéma n'a pas osé aborder.
Dis donc, ça a l'air très très allumé, ça se traduit comment concrètement ?
La trilogie de l'Infini, en fait, c'est l'apothéose de l'obsession psychédélique qui a transcendé le genre des super-héros dans les années 80. Vous saviez, les auteurs à l'époque adoraient ça, notamment dans les dessins. Ça a irrigué cette intrigue avec notamment les pierres de l'Infini qu'on voit dans les films, des gemmes qui, une fois rassemblées, confèrent un pouvoir inégalable.
Le Big Bang envoya 6 cristaux élémentaires, dérivés à travers un univers encore vierge. Chacune de ces pierres d'infinité contrôle une des données élémentaires de l'existence.
L'espace, la réalité, le pouvoir, l'âme, l'esprit et le temps.
J'avais fait 3 mois de bébé.
Alors vous voyez, c'est un peu perché déjà, il faut quand même suivre. Et ce mysticisme, il est encore plus marqué dans les comics où il est question pêle-mêle, d'entité cosmique, de réalité parallèle, d'asservissement par la religion, de pouvoir télékinésique. Et puis, il y a les dessins fabuleux de Ron Lim, hyper colorés, parfois à la limite de l'abstrait, tellement il y a des éléments entassés dans les cases, on dirait une sorte de rêverie sous LSD. Et ça donne des choses absolument incroyables. Tenez, je vous ai sélectionné une page, hop. Voilà, ça donne ce genre de choses complètement...
Ouais, ils n'ont pas pris que de l'eau. Ça
voilà,
vous tente, Marc Lévy ?
Ouais,
j'ai parcouru les pages, c'est vraiment bien.
Ouais. Merci beaucoup.
Et c'est beaucoup plus fouillé que les films, en fait, surtout.
Mmh. Merci beaucoup, Clément Le Saff. Vous restez avec nous, Marc Lévy. On a encore plein de questions pour vous. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du romancier Marc Lévy, c'est arrivé la nuit, c'est un roman fleuve, enfin très épais. Il est illustré, j'ai pas dit encore que c'était illustré, 400 pages. Pourquoi vous avez voulu mettre des dessins ?
Ça crée des pauses et ça matérialise les lieux, parce que d'abord j'aime beaucoup la dessinatrice et les dessins, enfin l'illustratrice et, ses dessins. C'est quelque chose que j'ai commencé il y a 3 ans, quand j'avais écrit Une fille comme elle, parce que je voulais qu'on voit la ville à la hauteur de, à laquelle mon personnage se déplace. Et puis ça a plu, et ça a même d'ailleurs été copié. Et voilà. Et
donc elle s'appelle Pauline Lévesque, voilà. Elle dessine des très beaux hôtels, notamment, ça m'a frappé, le Pera Palace à Istanbul. Pourquoi j'en parle ? Parce que j'ai découvert que quand on est dans un hall d'hôtel, quelqu'un, mal intentionné, peut prendre le contrôle de votre téléphone ou de votre PC, parce qu'on est tous sur le même Wi-Fi.
Dans tous les grands, c'est un hack qui est très connu, dans tous les grands lieux publics, les halls de gare. À chaque fois que vous vous connectez à un réseau, à un Wi-Fi public, vous avez le risque que ce Wi-Fi public ne soit pas un Wi-Fi public, mais en fait un faux Wi-Fi qui est lancé par un hacker. Et une fois que vous êtes connecté, il va pouvoir pomper tout ce qu'il y a dans votre iPhone. Et c'est un vieux hack, c'est vraiment le béaba.
Tout ce que vous racontez est vrai dans ce roman. La responsabilité de Facebook dans le Brexit. On avait parlé, je me souviens, du scandale de Cambridge Analytica au moment de l'élection de Donald Trump. Et là, vous n'y allez pas par quatre chemins. C'est dans une interview de vous que j'ai trouvé. Vous dites avec Facebook, Mark Zuckerberg est un Goebbels modèle pour les plus jeunes. Goebbels, c'était le ministre de la propagande d'Adolf Hitler. Est-ce que vous n'allez pas un peu loin ?
Non, je ne vais pas loin du tout. En fait, la vraie phrase que j'ai dite, c'est que Goebbels n'aurait pas rêvé d'un outil de propagande. Enfin, n'aurait pas osé rêver d'un outil
dans
de propagande.
Dans le journal, c'est devenu une autre phrase. Ça,
oui,
c'est la presse française.
Oui, ça arrive.
On ne va pas les citer, c'est la presse française. Vous dites une chose et il n'y a qu'autre chose qui est écrite.
Mais en fait, la vraie phrase, c'est que je pense et que je redis sans aucune. C'est que Goebbels n'aurait pas osé rêver d'un outil de propagande et de manipulation des masses aussi efficace que Facebook.
Vous dites
qui est
que.
Je pense qu'il est aujourd'hui l'entreprise la plus toxique du monde pour les démocraties. Je pense, si vous voulez qu'on parle de Zuckerberg, je pense que Zuckerberg sera reconnu dans l'histoire comme l'un des hommes qui aura causé le plus de dégâts, propagé le plus de haine et le plus divisé la société humaine. Et, je le dis depuis 5 ans, uniquement pour des questions idéologiques et financières, on ne devient pas le milliardaire qu'il est en étant un visage aux faces d'ange qui s'excuse 20 fois des crimes qu'il a commis. Facebook est aussi responsable, je vous le dis aussi, de la mort d'un très grand nombre de personnes dans un génocide qui n'aurait pas eu lieu sans Facebook.
Lequel ?
Au Myanmar. Facebook est un outil de propagation de la haine. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Ça fait d'autres choses aussi, mais dans l'exploitation actuelle de ce réseau social, c'est une entreprise extrêmement toxique qui prend nos données, qui les revend et qui s'enrichit sur le commerce de la vie privée des gens. Voilà, ça suffit, là je l'ai bien dit.
Vous avez toujours un compte Facebook ?
J'ai pas de compte privé, non.
Vous avez un compte public de
oui,
en tant qu'écrivain.
Voilà. Public, oui.
Est-ce que vous avez déjà rencontré, comme vous habitez aux États-Unis, est-ce que vous avez déjà rencontré Mark Zuckerberg en vrai ?
Non, mais je n'aurais aucun problème à lui dire ce que je pense.
Vous suivez la campagne américaine ?
Bah oui.
Alors ?
Bah, comme tout le monde, je retiens mon souffle.
On est ici, une émission média, ce sera ma dernière question. Vous avez quelques secondes pour me dire ça. Est-ce que c'est vrai que vous avez travaillé Marc Lévy pour l'émission Les routiers sont sympas ?
Oui.
Ouais. Vous faisiez quoi ? Ne citez pas la radio parce que ce n'est pas la nôtre. Mais disons qu'ils sont
rouges. Pesson, qu'est-ce qu'on veut faire pour vous ? J'étais standardiste au standard de la radio.
Ah, mais je trouve ça absolument formidable de savoir que c'est Marc Lévy qui vous répond quand vous appelez. Il va y avoir un deuxième tome, un troisième tome de ce livre, C'est arrivé la nuit ?
Oui. Le deuxième tome qui s'appelle Le crépuscule des fauves, qui va sortir dans le courant du premier trimestre. Et puis un troisième tome qui arrivera un peu après.
Il y a quelque chose qui m'a un petit peu inquiété, c'est que vous avez dit avoir mis des textes au coffre au cas où il vous arrive quelque chose de grave. Qu'est-ce qui peut vous arriver de grave ?
Comme à tout le monde. Oui. On peut passer. Non, mais quand vous écrivez un roman qui se suit, la moindre des choses que l'on doit aux lecteurs, c'est de leur donner la fin. Donc j'ai mis la fin. S'il m'arrivait un truc.
Ah d'accord, mais c'est pas par rapport au sujet de ce livre. Non, vous attaquez aux hackers, à Facebook et au Big Pharma.
Ah ben ça, on ne sait jamais, mais enfin non, je ne suis pas paranoïaque. Non, je dis juste, s'il m'arrive quelque chose, au moins comme ça, la fin sera disponible.
Merci beaucoup Marc Lévy. Je rappelle, votre roman, C'est arrivé la nuit, c'est chez Robert Laffont Versilio et c'est en vente partout. Merci à tous.